si vous êtes arrivé à ce niveau-là dans votre vie. Parce que des fois, on chante des chants, mais est-ce qu'on les vit? Et c'est difficile de réaliser ce que ces paroles disent. En tout cas, on a commencé une série qui correspond exactement à ce thème de l'engagement. C'est une série qui étudie la vie de Élie. Pour la plupart d'entre vous, vous étiez là la semaine dernière, d'autres nous ont rejoints. Est-ce que vous vous rappelez que une vie engagée, ça implique beaucoup de choses? Parce qu'on a beaucoup de sympathisants, des fois, des personnes qui sont prêtes à suivre Dieu quand Dieu les bénit, qui sont prêts à suivre Dieu pour que Dieu leur donne un conjoint, un appartement, un bon travail. Mais lorsque Dieu te fait vivre pendant 3 ans et demi à Kérit, dans un endroit désert, où tu n'as que quelques corbeaux pour te nourrir et un petit filet d'eau, alors là, restent ceux qui sont prêts à s'engager. Il y a des hommes et des femmes que Dieu cherche dans cette génération, qui sont prêts à tenir, quelles que soient les situations de leur vie. Élie, premier point que l'on a vu la semaine dernière, était un homme engagé parce qu'il avait, et c'est la base de toute chose, une confiance absolue en Dieu. Tu ne peux pas tenir. Des fois, certains d'entre vous, vous allez vouloir démarrer votre vie avec Dieu et vous dites « Seigneur, je te suivrai toute ma vie », etc. Vous ne tiendrez pas si vous n'avez pas une confiance absolue en Dieu. C'était un homme ordinaire, Élie. Il venait d'un endroit, on l'a étudié, Élie, de Tishbé. Venait d'un droit perdu, un homme ordinaire, un village banal, mais il a pu avoir une vie extraordinaire, non pas parce qu'il avait des choses en lui qui étaient extraordinaires, parce qu'il avait une confiance extraordinaire en Dieu. Ce n'était pas des compétences personnelles, simplement quelqu'un qui a une confiance absolue, extraordinaire en Dieu, et d'un homme ordinaire, Dieu a fait des choses extraordinaires. Deuxième point qu'on avait vu, c'est qu'il était prêt à s'appuyer sur Dieu, même quand le plan de Dieu, c'est des corbeaux. Même quand Dieu, chaque matin, lorsque on dit « Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » C'est un petit morceau de fennec du désert, pas très frais, qui tombe dans l'assiette. Et quand ça dure des années, il n'y a plus beaucoup de gens qui continuent à dire merci Seigneur. Et Élie était cet homme de Dieu qui est resté, parce que même à la fin, et c'était très très fort dimanche de réaliser cela, il avait la possibilité de faire venir la pluie. La seule chose bonne que Dieu avait donnée dans sa vie, c'était le torrent. Les corbeaux, c'était très difficile, mais il y avait une chose bonne, il avait de l'eau fraîche au torrent. Et même ça, Dieu lui l'a enlevé. Dieu lui a enlevé la dernière chose bonne qu'il avait dans sa vie, le torrent. Et Dieu lui avait donné la possibilité de dire, si tu pries, je fais venir la pluie. Mais Élie, parce qu'il savait dépendre de Dieu, au lieu de se servir et de forcer la main de Dieu, tant que Dieu ne m'a pas ordonné de donner la pluie, je ne ferai pas cela. Et il est resté jusqu'à ce que le torrent s'assèche, qu'il n'avait plus rien à boire. Mais Dieu, lorsque tu fais confiance, Dieu fait sa part. Et Dieu assure lorsque toi, tu sais lui faire confiance et que tu mets ton assurance en lui, Dieu assure. Dieu va bénir Élie. Parce qu'on s'est quitté la semaine dernière avec ce texte. Enfin, après 3 ans et demi, Dieu parle. Et Dieu dit, mets-toi en route, lève-toi. Et il y a des moments dans notre vie où quand on est un homme d'action et que Dieu nous met au placard pendant 3 ans et demi, comme Dieu a mis Élie au placard pendant 3 ans et demi, alors que c'était un homme qui avait un ministère international, d'être bloqué. Peut-être toi, on avait vu ça la semaine dernière, tu es peut-être une maman qui a sacrifié ta vie pour les enfants, tu as eu l'impression de t'être mis au placard par Dieu. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et il y a un camp d'entraînement de Dieu qui s'appelle Kérit, et puis il y a un temps où c'est la scène et un temps où tu as l'impression d'être dans l'oubli. Et vient le temps où Dieu lui dit, tu te lèves et ça bouge. Merci Dieu pour les actions qui commencent dans ma vie. Alors, j'en arrive au point de ce matin. Qu'est-ce que Dieu veut me dire ce matin? Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Qu'est-ce que Élie, Dieu veut t'apprendre? Dieu veut t'apprendre que, numéro un, c'était la confiance absolue. Aujourd'hui, c'est est-ce que Dieu est en premier dans ta vie? Et là, je crois que je vais perdre ce matin votre sympathie pour ceux qui ne sont pas véritablement engagés avec Dieu. Ce message va être très difficile à digérer, à faire passer peut-être. Et je demande vraiment la grâce de Dieu parce que le niveau spirituel qui est requis pour accepter cela, si vous n'avez pas d'abord une confiance absolue en Dieu, vous allez trouver que ce matin, c'est trop, c'est de l'abus. Parce que Dieu va amener Élie dans une deuxième dimension incroyable en termes de priorité. Dieu veut être en premier dans ta vie. A-t-il la priorité dans ta vie? Dans ma vie, aujourd'hui, dans mes projets, est-ce que c'est Dieu qui est en premier ? dans mes choix quotidiens, est-ce que je consulte Dieu et je cherche à faire sa volonté en premier? Dans mes finances, est-ce que Dieu est premier servi? Dans mon temps, quand je me lève le matin, est-ce que c'est Dieu que je sers en premier? Il n'y aura pas beaucoup d'amen ce matin, mais il y aura quand même la parole de Dieu. 1 Roi, chapitre 17, on va lire la suite. La semaine dernière, on est à Kérit, cette semaine, on va à Sarepta. Je vous dis, Élie est content parce que Dieu parle. On va voir deux choses ce matin. En termes de priorité, on va voir d'abord le drôle de plan de Dieu. Dieu a des drôles de plans. Et Dieu a un drôle de plan pour Élie. Ensuite, on verra, parce que c'est l'histoire de Élie et d'une veuve, la comparaison de ces deux personnages. On lit ensemble, 17, verset 8, là où on s'est arrêté la semaine dernière. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Mets-toi en route et va à Sarepta dans le pays de Sidon, installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. » Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit, « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Au verset 11, comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander, « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit, « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser deux bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Et quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Élie reprit. « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Seigneur, conduis ce temps ce matin. Il y a peut-être des choses que tu vas émonder, que tu vas couper, que tu vas remettre en ordre dans ma vie et dans la vie de certaines personnes. Que l'on ait 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans de conversion. Nous voulons accepter d'être corrigés par toi. Rends-nous enseignables en cette matinée. Au nom de Jésus, amen. Amen. Je prie vraiment pour que la parole de Dieu soit, déjà que ce ne soit pas une parole des hommes, mais que ce soit vraiment la parole de Dieu. Et il y a plusieurs choses que j'ai sur mon cœur à vous donner. Premièrement, le drôle de plan de Dieu, c'est le verset 9. Pendant 3 ans et demi, tu attends que Dieu te dise qu'une seule chose, bouge, lève-toi. Au bout de 3 ans et demi, Dieu dit bouge, lève-toi. Alors là, ça doit être la fête. Ça vous est déjà arrivé d'attendre quelque chose qui ne vient pas. Et enfin, alors que le ciel était silencieux, et que chaque jour, il voyait l'eau qui s'amenuisait, qui devenait tout petite. Enfin, Dieu lui dit, Élie, bonne nouvelle, changement. Sauf que, il dit, va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et j'ai ordonné à une veuve de là-bas de te donner à manger. Alors là, c'est un moment où le plan de Dieu est beaucoup moins enthousiasmant. Premièrement, Sarepta, le pays de Sidon. Sarepta. En hébreu, le mot c'est Sorfat. Sorfat. Sorfat, ça veut dire en hébreu fusion, extraction. C'est dans cette ville de Sarepta que les Philistins, les Phéniciens, donc c'est le sud du Liban, qui avaient la technologie du fer, qui avaient la technologie des métaux. Et c'est pour ça qu'ils étaient d'ailleurs imbattables au moment de la conquête d'Israël. Ils avaient la possibilité à Sarepta d'utiliser leur fournaise et la technologie du métal pour faire fondre le métal, enlever toutes les impuretés. Vous savez que quand vous poussez le métal à très haut degré, très haute température, le métal fond et vous pouvez en façonner ce que vous voulez. notamment des armes, c'était ce que faisaient les Philistins. Mais à Sarepta, c'était l'endroit aussi où on transformait l'or, où on prenait l'or qui était brut, et on le fondait et on pouvait en faire ce que l'on voulait. Ça devenait malléable. Poussé à très haute température, ça devenait malléable. Et lorsque Élie entend cette parole de Dieu, Dieu lui dit, tu vas aller dans la fournaise, parce que ce que j'ai prévu après 3 ans et demi d'épreuve à Kérit, c'est d'aller à Sarepta, dans le lieu de la fusion, parce que quelque part, je vais encore travailler ton caractère, corriger, enlever les impuretés, pour que tu sois 100%. 100% pur, 100% pour moi, 100% engagé. Vous avez déjà vu un métal lorsqu'il est bien, lorsqu'il est parfait, vous voyez votre image dedans. Regardez de l'argent, quand c'est de l'argent qui a été frotté, qui a été brossé, etc. Vous regardez, vous voyez votre image. C'est ce que Dieu veut faire. Il y a un moment où Dieu dit, je veux former mon image en toi. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je suis prêt à passer dans le creuset, je suis prêt de passer là où, et d'être passé à très haute température pour que tu enlèves en moi les dernières choses que tu veux corriger. Il y a peu de personnes qui sont enthousiastes pour aller à Sarepta. Hein. Surtout que ce que Dieu dit, c'est tu vas y aller et tu vas y rester parce que tu vas t'installer là-bas. Moi, je veux bien passer 5 minutes à la fournaise, Seigneur. Mais seulement en 5 minutes, il n'a pas le temps de faire son travail. Et il y a un travail qui prend du temps. Et le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et c'est vrai que Sarepta, c'est un endroit très dur. Moi, quand j'étais petit, j'avais un cantique que je chantais. Je me rappelle, j'avais 10 ans. Je n'ai pas toujours compris, mais ça me fait penser à ça. Le cantique disait, « Pourquoi crains-tu mon âme ? Qu'il me faille affronter tourments, combats, épreuves, passer par le creuset où l'on affine l'or. » Et j'étais allé voir ma maman et je disais, « Maman, qu'est-ce que ça veut dire le creuset où l'on affine l'or ?» Et c'est là où ma maman m'a expliqué ce que voulait dire Sorfat. L'endroit où on affine l'or. Elle m'a dit, c'est quand à un moment, il y a l'épreuve, il y a des difficultés dans ta vie. Et Dieu permet que l'épreuve vienne, tu ne comprends pas tout, ça te fait très mal. Il y a la flamme de Dieu qui est autour. Et tu t'en sors meilleur. Parce que Dieu enlève en toi des choses qu'il veut brûler. Quelque temps après, on est passé par une épreuve terrible. Ma maman est tombée en dépression, mon père a tenu la maison, je ne sais pas comment, il a dû changer de métier, on a dû quitter notre maison, c'était terrible. Mes amis sont retournés à l'école, c'était une horreur, à l'église c'était une horreur, enfin, ouais, c'était un vrai quoi, vraie fournaise pendant 2 ans. Et c'est très long 2 ans quand ça va très très mal. Et Dieu, et là je repensais à ce cantique, Seigneur j'ai dit que j'acceptais de te donner ma vie et te dire, Seigneur, elle est sur ton autel. Elle est sur ton autel. On aime bien dire, Seigneur, je te fais une offrande. Oui, mais si c'est toi l'offrande, si c'est toi qui passes par le creuset où l'on affine l'or. Alors Sidon, Sidon, ça ne s'améliore pas. Hein. Parce que Sidon, territoire de Sidon, Sidon, on l'a vu la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, c'est le territoire de Jézabel. La fameuse Jézabel, l'ennemi juré de Élie, la femme du roi Achab. Est-ce que vous comprenez combien le plan de Dieu est bizarre? Parce qu'il a prévu pour Élie d'aller se planquer dans la taverne, dans le coin, le plus là où se trouve le mal. Dieu va l'amener dans la gueule du loup, dans le repère de l'ennemi. Là où il y a les fameux, la garde de Jézabel, c'est tout petit le territoire de Sidon. Attends, mais Seigneur, c'est quoi cette blague? Tu viens de faire 3 ans et demi à Kérit et tu veux m'amener maintenant carrément dans la gueule du loup? Et je compte si peu pour toi, Seigneur, pour que tu me fasses passer par là? Tu veux vraiment ma mort? Est-ce que tu comprends que Dieu est avec toi? Ne crains pas, je suis avec toi. C'est dans le livre d'Ésaïe 41. Relisez Ésaïe 41 si vous en avez besoin. C'est très important de savoir que Dieu est de ton côté. Ne sois pas effrayé car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui te fait justice, qui fait justice. Oui, mais Seigneur, en attendant, je dois aller là-bas. Tu vas me mettre dans le pays du dieu Baal. Et tu ne sais pas pourquoi, Élie, Mais peut-être c'est parce que les chars d'Akab te cherchent partout en Israël et le seul endroit où l'adversaire ne t'attend pas, c'est chez lui. Et peut-être que toi, qui es là ce matin, tu dis « mais c'est pas possible dans mon travail, c'est comme si ça se cumule là. J'avais une personne méchante, mais j'ai l'impression qu'ils sont toutes liguées contre moi. » Et peut-être que Dieu permet que tu sois vraiment à Sidon, dans le pays du mal. Et c'est là-bas que Dieu prend soin de toi. Il n'y a pas d'endroit plus sûr qu'au centre de la volonté de Dieu. Si Dieu te veut là, ils ne toucheront pas un seul cheveu de ta tête. Les cheveux de votre tête sont comptés, l'Éternel rend compte de tout. Et ça, c'est important parce que si tu n'as pas confiance, c'est pour ça que si vous avez raté la semaine dernière, c'est un petit peu déjà difficile, alors il peut y aller. Bon, Seigneur, Sarepta, c'est kata. Sidon, c'est pire que... Quand vous voulez dire quelque chose de difficile à quelqu'un, vous connaissez ce que disent les Québécois, ils disent qu'il faut faire un sandwich. On dit ça entre pasteurs, donc des fois. Un sandwich, c'est que vous commencez avec une phrase gentille, c'est le bon pain. Après, vous mettez le burger un peu dur à faire passer, et après, vous remettez un bon sandwich facile à avaler, d'accord ? Bah, Dieu, il ne fait pas ça. Hein. Alors, je me dis que vu que la première tranche est difficile, que la deuxième tranche est difficile, qu'au moins la troisième soit facile. Mais non. D'ailleurs, je compte sur une veuve pour te donner à manger. Bon, alors, il y a quand même deux façons de prendre la chose. Il y a deux façons de prendre la chose parce que, à l'époque, dans l'ancien temps, ça, c'est toujours vrai d'ailleurs aujourd'hui. Une veuve, ça veut dire quoi ? Ben, probabilité, il y a 99% des veuves sont dans l'extrême pauvreté à l'époque. Aujourd'hui, on a déjà les minimums vieillesse qui sont ridicules. Mais à l'époque, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de sécurité sociale. Hein. Donc, 99% des personnes qui perdent leur mari avec l'âge, qui deviennent âgées, n'ont rien. Donc elles sont dans la mendicité. D'accord ? Veuve égale, dans 99% des cas, situation dramatique. Sauf que, il se dit, vu que Dieu est Dieu, et qu'il a été capable de me nourrir avec des corbeaux, il va peut-être m'amener chez Liliane, Bettencourt. J'ai une chance sur 100. Mais si c'est chez elle que j'arrive, tu vas être dans le palace. Et peut-être que... Il est dit, Élie se mit en route et se rendit à Sarepta. Imaginez dans le voyage, on vous dit, tu vas aller chez quelqu'un. Je pense que Élie se dit, Dieu, il va pas me faire non plus... Dieu est bon, quoi. Et peut-être des fois, avant de t'engager... Dieu ne te dit pas exactement quel est le personnage mystère qu'il a prévu pour toi. Je ne parle pas de ton mari, ni de ton conjoint. Mais bon, quand tu t'es engagé, t'espérais peut-être un peu mieux. En tout cas, Élie, lorsqu'il est parti vers Sarepta, il devait imaginer, Seigneur, comment je vais reconnaître cette veuve qui aura quand même suffisamment pour pouvoir me loger, me nourrir, me blanchir, et que je sois au moins dans du 2 étoiles. Au moins de l'Ibis, Seigneur. Je ne te demande pas forcément Novotel, mais au moins un Ibis. Et là, il s'avance vers Sarepta, 150 kilomètres. Il est assoiffé, il n'a rien à boire. Il n'a pas pu prendre de provisions, et quelques corbeaux qui ont dû lui lâcher une ration supplémentaire avant de partir, mais il a 3 fois rien. Et là, il arrive dans le pays de Sidon, Sarepta. Qu'est-ce qu'il est dit ? Verset 10. Élie se mit en route et se rendit. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit. En fait, en hébreu, c'est « il cria et lui dit ». Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est loin de cette veuve. Mais ça veut dire qu'il n'est aussi pas rentré dans la ville. Je me suis dit, mais pourquoi Élie n'est pas rentré dans la ville ? Vous vous rendez compte qu'il s'est arrêté à l'entrée de la ville ? 2 possibilités. Soit Élie a eu la trouille de rentrer parce qu'il s'est dit, pour peu qu'il y ait un de ces gardes noirs de la milice spéciale qui va gérer là de Jézabel et qui sait que ma tête est à prix, je passe par les portes, je suis HS. Ou bien, il a essayé de rentrer et il s'est fait refouler, comme un mendiant. Non, parce que le look de Élie, après 3 ans et demi, Et déjà qu'il n'est pas parti avec des Nike au départ. Il est parti avec des petites sandalettes, une veste de peau. Bon, même si le cuir, ça tient. C'est tanné quand ça arrive. Hein. Il ne doit pas être en pleine forme. Il ne doit pas sentir la rose non plus. Il est arrivé à la porte de la ville. Non, parce qu'à la fin, il n'y avait plus d'eau. Vous avez compris ce que ça veut dire aussi. Si vous avez plus d'eau pour boire, c'est que vous avez... D'accord, vous avez compris. Vous avez plus d'eau pour rien. Donc, quand il arrive à la ville, il n'a peut-être pas osé rentrer. Ou on l'a refoulé. Et il voit cette veuve et il lui crie. Et il lui crie quoi ? S'il te plaît, va me puiser d'eau, un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. Oh ! Ça me rappelle quelque chose. Qui connaît sa Bible ce matin ? J'espère que oui, toi un petit peu. À quoi ça te fait penser ? Immédiatement. Vous savez, quand on est en situation d'épreuve et de stress absolu, sur quoi on se base ? On se base sur ce qu'on se rappelle de la parole de Dieu et ce que nos anciens nous ont appris. En période de stress, tu retrouves à tes valeurs premières. Et la seule chose que Élie sait, il sait, c'est que il y avait un jour un homme de Dieu qui s'appelait Éliézer, qui ne savait pas comment reconnaître la femme qui allait être la femme de Isaac. Alors Éliézer a prié et il a dit « Dieu, je te demande une chose, c'est que cette femme qui me servira de l'eau à boire, ça soit celle qui vient de toi. » Et alors, heureusement, il y a eu Rebecca. Et puis il se rappelle que son arrière-grand-père Jacob, lorsqu'il est arrivé un jour dans son puits en ayant quitté sa famille, étant perdu, ayant perdu son pays, comme la situation d'Élie, a dit « Seigneur, je vais aller au puits, et là, il y a une Rachel qui est venue. Et là, vous avez déjà la musique de Tiamo, Tiamo. Là, il a dû le faire 3 fois, 4 fois, 10 fois. Hein. Vous avez les boucles là, avec un peu de ventilateur qui est dans les cheveux. Elle s'approche de lui. Alors, du coup, Élie, il s'attend peut-être à ça, quoi. Ben, moi, je me serais attendu à ça. Je dis, Dieu est bon, il va m'amener. Aïe. Elle est d'accord de chercher de l'eau. Yes, c'est la bonne. Non, parce que pourquoi c'est sûr que c'est la bonne? Parce que vu son look, son odeur, qu'il est un étranger, qu'il est un homme et qu'il parle à une femme, la probabilité qu'elle lui serve de l'eau est nulle. Sauf si Dieu est dans l'affaire. Et Dieu est dans l'affaire. Alors cette femme dit, ok, d'accord pour l'eau. Alors, il a juste le temps de se réjouir, de faire 2 petits tours, de dire, il est partout, il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Puis il s'arrête, et puis il dit, on va rajouter un petit peu, puisqu'on a eu l'eau. Donc, je double la mise. Est-ce que tu peux m'amener un peu de pain ? Merci ! Et elle répond. Elle lui répondit, aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer, préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Alors là, silence. Le drôle de plan de Dieu. Je viens de faire 150 kilomètres. Je n'ai plus d'eau. J'ai perdu le dernier endroit de Kérit. Je suis exténué. J'arrive vers la personne que tu as prévue pour moi parce qu'elle m'a donné de l'eau. Et Dieu, tu m'amènes vers une femme qui est dans un état plus cata que moi ? C'est quoi ton drôle de plan de Dieu ? Mais là, c'est parce que je réagis sans avoir le Dieu d'Élie. Et le problème, c'est que si jamais à ce moment-là, tu réagis sur les impressions, tu pars. Tu quittes Dieu, tu quittes l'Église, tu quittes ton foyer, tu quittes tout, tu dis « ciao ». C'est une arnaque, tout ça pour ça. Franchement, vive la foi. Il y en a marre de ces témoignages de gens qui disent « j'ai tout quitté pour Dieu » et qui après disent « oui, mais Dieu nous a archi bénis, etc. » C'est une arnaque. j'ai tout quitté pour Dieu, je m'appelle Élie, j'ai fait 3 ans et demi à Kérit, j'ai renoncé à tout, j'ai laissé tous mes biens, je suis allé me cacher dans un torrent parce que j'ai osé me mettre en face du roi impie, j'ai dû aller me planquer, j'étais prêt à suivre Dieu pour aller à Sarepta, dans la gueule du loup, j'ai obéi, il m'a amené vers une veuve, ça paraissait bien, même là je me suis fait avoir. Et pourtant Élie n'a pas du tout réagi comme ça. Vous savez pourquoi ? Effectivement, il y a deux situations d'extrême dépendance. Elle est dans un niveau de dépendance et de pauvreté absolue, cette femme. Élie aussi. Humainement, vous prenez Élie, vous prenez cette femme, et j'arrive à mon deuxième point de ce matin. Il faut les comparer. Les deux, même galère. Les deux n'ont plus rien à manger. Les deux ne vont pas tenir la semaine, d'accord ? C'est une question... Arrêtez de vous... On n'arrive plus à vivre ça, mais imaginez qu'il n'y a rien. Mais imaginez un instant qu'il y ait une grève générale en France. Ça, à la rigueur, c'est presque possible. Mais qu'il n'y ait plus rien à manger nulle part, nulle part, nulle part. Et que ça ne dure pas une semaine, que ça dure des années. Au bout d'un moment, les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous. Et elle est en situation de pauvreté extrême. Quelle va être la situation de d'Élie ? Et Élie se dit, je suis complètement dépendant des autres. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y a aucun de vous qui, dans la biscotte ou dans le croissant que vous avez mangé ce matin, est allé planter le blé. On est d'accord. Vous n'êtes pas allé chercher la vache pour boire le lait qui va avec. C'est que vous avez donc dépendu de quelqu'un. Dans tout ce que l'on fait aujourd'hui, on ne se rend pas compte. On se dit, si je suis riche, etc., je serai mon propre chef, je serai autonome, écoute, je pourrai m'assurer tous mes besoins. Ce n'est pas vrai. On est dans un monde interconnecté. Tout le monde a besoin de l'autre, même les chrétiens, évidemment. Tu ne peux pas te passer des autres. On est tous quelque part à un niveau de dépendance vis-à-vis des autres. Le truc d'Élie et de cette veuve, c'est qu'ils sont simplement beaucoup plus dépendants, c'est tout. Étant donné qu'ils sont très pauvres, ils sont extrêmement dépendants. Sauf que cette veuve, elle est dépendante des autres hommes, alors qu'Élie, il est dépendant des autres hommes aussi, et dont d'elle, mais de Dieu. Et en dernier ressort, contrairement à cette veuve, il sait que c'est Dieu. Cette veuve et lui sont dans la même situation catastrophique. Mais il y en a un qui, dans cette situation de pauvreté extrême, a l'espoir, c'est Élie, et n'a plus d'espoir, c'est cette pauvre veuve. Et ça change tout. Et ça change tout. Alors je voudrais te dire, spirituellement, Élie, lorsque tu dois dépendre des autres, n'oublie pas que tu dépends de Dieu, ça tu le sais, mais ça va te demander beaucoup d'humilité, d'oser demander de l'aide aux autres. Et ça, on ne sait pas faire dans les églises. Ou quand on le fait, ça se finit tellement mal qu'on n'ose plus le faire. Mais il y a un moment où, spirituellement, Dieu permet, et ça arrive à tous les leaders, et à tous les responsables spirituels, mais également à tous les niveaux, de toutes les personnes qui servent le Seigneur. Un jour, on dit, voilà, j'ai besoin d'aide. Et Élie, je pense que c'est la honte pour un super prédicateur comme lui, de devoir aller voir cette veuve et de lui demander, pardonnez-moi l'expression, je vais actualiser, mais est-ce que je peux te taxer un peu de farine ? Mais c'est la honte, quoi. Et il y a un moment où, enfin, si c'était Liliane de Bettencourt, il aurait eu moins de scrupules, vous voyez. Ah, il aurait dit, j'ai fait comme Robin des Bois. J'ai pris aux riches pour donner aux pauvres, c'est bon. Mais prendre à une super pauvre pour donner à un super pauvre, c'est juste triste. C'est la honte. Et quand il est en face de cette veuve, c'est la honte. Et ça te demandera beaucoup d'humilité de suivre le plan de Dieu. Parce que si t'es pas... C'est trop facile, vous voyez. Moi, les pasteurs, on nous a appris à dire « Tu peux plier le genou devant Dieu. Je dépends que de Dieu. » Et les leaders de louange, c'est pareil. « Ah, si Dieu me le dit, d'accord. » etc. Et c'est facile de se mettre sous la dépendance de Dieu. Mais Dieu, quelque part, il accepte aussi qu'on soit sur la dépendance un petit peu d'autres hommes et d'autres femmes pour nous bénir au final. C'est très difficile à accepter de se mettre des fois sur les genoux alors qu'on aurait envie de dire au nom de Jésus, je donne à manger à cette femme. Et pourtant, c'était cette femme qui devait donner à manger à Élie. Et cette femme, d'ailleurs, c'est une victime collatérale de la sécheresse que Élie a fait venir. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Pourquoi cette femme est en train de mourir de faim ? Vous savez pourquoi elle est en train de mourir de faim ? Parce que Dieu est fâché contre Acab. Elle y est pour rien. Non, elle y est pour rien. Sauf que dans l'échelle sociale, lorsque Dieu met la punition sur Acab, Akab bouge pas. Dieu met la punition sur le pays et cette femme, c'est une victime collatérale. Elle habite dans le pays du faux dieu Baal, le dieu de la pluie, elle est en train de mourir de faim. Seigneur. Mais Dieu a vu cette femme. Jésus dit, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, « Voici en vérité, je vous déclare, il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, quand pendant 3 ans et demi, il n'y eut pas d'eau et de pluie, et qu'une grande famine sévit dans tout le pays. Or, Élie n'a pas été envoyé vers aucune d'entre elles, mais vers une veuve qui vivait à Sarepta, dans le pays de Sidon. » Ça veut dire que Dieu a fait déplacer son meilleur pasteur pour aller faire 100 kilomètres et aller chercher cette veuve et lui dire « Je t'ai vu. » Je t'ai entendu et je vais pourvoir à tes besoins. Dieu était capable de bouger son meilleur missionnaire pour aller voir cette victime collatérale en disant, cette femme-là, je veux qu'elle ait la vie. Alors je vais la bénir d'une façon très surprenante. Élie, lui, il est un petit peu habitué, il a vu des corbeaux. Mais cette femme aussi, qui habite à Sidon, dans le pays du malheur, a le droit aussi d'avoir la gloire de Dieu et de voir que Dieu est capable de faire des miracles et l'abondance dans la disette. C'est génial. La bonté de Dieu, il va utiliser 2 personnes super mal pour donner, pour voir une gloire de Dieu. Et c'est ce qui va se passer. Alors cette femme, quand Élie vient, la situation, c'est une parole de mort. Hein. Elle dit, moi je vais mourir, tu vas mourir, on va mourir, on va tous mourir. Au revoir. Elle est comme ces chrétiens et comme moi parfois. Les problèmes s'accumulent. Voilà, ben c'est foutu. D'ailleurs, si Dieu voulait agir, il fallait agir avant. Elle dit bien, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Elle est d'accord de dire, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Vous êtes capable de dire ça. Vous commencez votre phrase du temps. Je sais que Dieu peut faire des choses. Mais la vérité, c'est que j'ai rien à manger. Vous dites à la sœur, crois, Dieu va te donner, mais toi, tu n'y crois plus. 34 ans, je ne peux plus me marier, c'est trop tard, je suis fini. Tu vas dire, voilà, de toute façon, c'est comme ça. Là, à l'heure actuelle, je n'ai pas eu d'emploi depuis tant que ça tend. À l'heure actuelle, il y a du chômage, c'est foutu. Dieu ne me bénira pas. C'est comme ça. On va mourir. Amen. Vous rigolez, mais vous le faites. Hein. Si je repasse la bande audio que Dieu a enregistrée, le soir de la semaine, vous avez déprimé tout seul dans votre chambre, c'est ce que vous avez dit. Hein. Dieu, c'est foutu, t'as eu ta soeur au téléphone, d'ailleurs ça va mal, et puis ça va mal, et puis ça va mal, et puis ça va mal, au revoir. Et humainement, elle a raison. Mais c'est parce que tu ne mets pas Dieu dans l'équation. Et Élie va dire, regardez ce qu'il dit. Alors là, je vous avais dit que Élie, il avait reçu des beefsteaks de Dieu, hein, c'est difficile à digérer, d'accord ? Mais alors là, notre sœur, la veuve, là, elle va en avoir un. Elle va avoir un morceau à avaler qui est difficile. Et je ne parle pas d'un morceau à manger qui soit bon. Hein. Je parle de quelque chose, d'une parole de Dieu. Ça déstabilise. Hein. Élie reprit. Sois sans craindre. Rentre. Fais ce que tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord ce que tu as, une petite miche de pain, et apporte-la-moi ensuite. Tu en feras pour toi et ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne se videra pas et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. Je voudrais juste dire une dernière chose sur Élie. Élie, pourquoi il peut avoir une réaction de foi alors que cette femme est en train de lui dire « Ma foi est morte, ma situation est morte, Dieu est vivant mais moi je suis morte. » Pourquoi Élie peut lui dire une parole de foi ? Vous savez, il y a des veuves parmi nous. Mais des veuves spirituelles, et qui ne le sont pas forcément humainement, mais qui le sont spirituellement. C'est des personnes qui n'ont que des paroles de mort. Et si tu as beaucoup de veuves autour de toi, comme cette femme, spirituellement, tu plonges vite. Parce que tu dis, c'est foutu, Dieu est vivant, mais c'est foutu. Et il faut qu'il y ait un homme de Dieu, il faut que tu sois une femme de Dieu pour avoir la même réaction qu'Élie, dit, c'est pas foutu. Et je vais te dire pourquoi. Vous savez pourquoi c'est pas foutu ? Parce que Élie connaît l'avenir. Vous dites, bah, c'est facile, alors s'il connaît l'avenir, moi aussi, si je connaissais l'avenir. Mais tu connais l'avenir comme Élie. Je suis désolé. Tu sais, celui qui connaît Dieu connaît l'avenir. Je répète, celui qui connaît Dieu connaît l'avenir. Élie ne sait pas forcément tout ce qui va se passer. Mais il sait une chose, c'est que si Dieu l'a amené voir cette veuve, et que si Dieu est vrai et que sa parole est vraie, alors la parole de Dieu sera que la jarre et le pot ne se videront pas. Mais ça, tu le sais aussi, non? Mais tu sais que Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse en Jésus-Christ. Ah, tu me dis, oui, mais je ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais si, tu sais ce qui va se passer demain. Et la Bible dit, vous vous inquiétez. Mais regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et le Père Céleste les nourrit. À combien plus forte raison le Père Céleste prendra soin de chacun d'entre vous. Et tu le sais, là, il dit la fin de l'histoire. Tu sais que dans la pire des galères, Dieu sera là. Et qu'au final, rien ne t'arrivera que Dieu n'ait permis, toléré, approuvé. Oui, mais pasteur, je ne veux pas. Attends. Le problème, c'est pas est-ce que tu vas passer par l'épreuve ou pas, tu vas y passer. Maintenant, la question, c'est comment va finir l'épreuve? Et la fin de l'histoire, tu l'as. Tu sais que mon Rédempteur est vivant et c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. Alors, on a du facile à dire, vous dites amen, je suis content, mais vivez-le. Alors, cette veuve-là, c'est mon dernier point ce matin. Mais c'est un morceau, hein. Élie lui demande, sois sans crainte, fais rentre ce que tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. J'ai regardé dans la Bible Chouraki, qui est du hébreu littéral, et en hébreu littéral, c'est tu te serviras en dernier. Je vais vous dire, si un jour, un homme de Dieu qui s'appelle Élie ou un autre, venait vous voir et vous dit, voilà, tout ce que tu as, tu donnes d'abord... Mais quel toupet! Ah, mais lui, on le voit venir. Je vais vous donner trois raisons pourquoi elle devait dire non. Trois raisons infaillibles pourquoi elle devait dire non. Premièrement, la demande. Elle est scandaleuse. Il lui reste trois fois rien comme farine. Elle va mourir de faim. C'est toutes ses économies qui sont dans ce pot de farine. C'est ses finances en porte-monnaie. Le peu qui lui reste. Et le peu qui lui reste, Dieu dit, donne-le jamais. Tu pourrais rajouter autant mourir, d'ailleurs c'est ce qui va arriver sinon. Jamais. Parce que vous voyez, ça, c'est juste... Encore s'il était venu 15 jours avant, elle aurait pu négocier 300 grammes. Mais là, il est venu la mauvaise semaine, vous voyez. C'est la semaine où demain, c'est fini. Et c'est le dernier pain qu'elle va faire. Et comme c'est une histoire d'argent, et que déjà à l'époque, ça posait problème, eh ben, c'est pas possible de dire oui. Parce que honnêtement, mes amis, dans le monde actuel... Vu comme vous êtes riche, parce qu'on peut pas dire que vous êtes arrivé au niveau de cette veuve, j'espère. Enfin, il y en a très peu en tout cas, qui demain vont mourir de faim. Parce que concrètement, elle va mourir de faim demain avec son fils. Eh bien, le peu d'argent qu'elle avait, elle a dit, ça sera pour toi. Enfin, il lui dit, ça sera pour toi, Seigneur, en premier. Deuxième raison pourquoi je vais dire non. Parce que la personne qui lui le demande, c'est qui ? C'est pas son conjoint, c'est même pas son fils, c'est pas quelqu'un qu'elle aime, quelqu'un en qui elle a confiance. C'est un inconnu, c'est un homme, c'est un inconnu, il est louche, il sent mauvais, il vient de loin, il est tout déchiré. Et il me dit quoi? Il me dit, donne-moi d'abord. Charlatan. C'est un mafieux ce gars-là. Il vient voler les pauvres. Vous vous rendez compte comment vous aurez réagi en... Déjà, quand il y a quelqu'un dans le métro qui sent pas très bien la rose et qui vous demande quelque chose, jamais. À combien plus forte raison il vient lui demander son argent et il lui reste rien et ça veut dire qu'elle donnerait tout. Deuxièmement, c'est un inconnu. Je ne donne pas un inconnu. Encore si c'était ma sœur qui me le demandait, mais un inconnu comme ça, d'où il vient, lui, d'où il débarque. Il vient de Kérit. Et troisième raison, c'est une veuve, mes amis. Et les veuves, à cette époque-là, ne sont pas protégées. Et derrière, ça veut dire des choses. Je ne pense pas aller trop loin en disant cela. Mais c'est les veuves, à l'époque, elles devaient mendier. Mais il y avait aussi d'autres façons pour avoir peut-être de l'argent un tout petit peu plus rapidement que vous étiez obligés de faire pour survivre économiquement. Et il y avait énormément d'abus. Parce qu'il n'y avait pas d'hommes à la maison. Donc si des personnes venaient et vous arrachaient vos provisions, vous pleuriez point barre. Alors des abus, elle en a certainement vécu. Je vais vous dire une chose, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quand on a vécu des abus dans un domaine, après on a simplement un urticaire géant dès que la personne vient appuyer sur le bouton qui nous rappelle des souvenirs passés. Et je pense qu'elle qui est criblée de dettes, qui doit être mal, qui est en train de mourir de faim, et que lui vient d'appuyer sur le bouton de l'abus, ça c'est un abus spirituel. Faux prophète. Voleur de pauvres. Et pourtant il y avait une parole de Dieu. Et c'est ça toute la différence ce matin. C'est est-ce que c'était de Dieu ou est-ce que c'était un charlatan? Parce que je vais quand même vous mettre en alerte. Il y a aussi des personnes qui vont vous demander, qui vont essayer de profiter de votre générosité pour vous pomper. Ça existe. Et qui vont peut-être se déguiser en ange de lumière. Ça, il y en a. Mais maintenant, tu n'as pas le droit de prétexter cela pour avoir un cœur dur comme la pierre. Parce que cette femme, elle n'avait rien. Elle avait trois raisons pour dire non. Parce que c'était ses dernières finances. Parce que c'était un inconnu. Et parce qu'elle avait peut-être vécu des abus. Et elle a dit tout cela, je le mets de côté et je suis prêt à le servir en premier. Dans la Bible, il se passe quelque chose. J'ai entendu beaucoup de messages qui parlent de tout ce qui est financier. À chaque fois, on est mal à l'aise parce qu'on est français. Bon, c'est un fait. Mais je suis choqué que comment ça se fait qu'en Afrique, mes amis, en pourcentage de revenus dans les églises évangéliques, il y a deux fois plus d'offrandes par personne en pourcentage des revenus. C'est un scandale, c'est une honte à la France. C'est une honte à la France. Nous, quand on parle de 10%, on a l'impression qu'on la dîmelle pas, qu'on arrache notre main. Parce que 1500 euros et 150 euros, c'est juste énorme. Mais en Afrique, quand c'est 150 CFA que tu as, et que tu en donnes 15, c'est autrement plus douloureux. Et vous voyez, vous pouvez me justifier en me disant « Oui, mais il y a des abus, il y a des tordus. » C'est vrai. C'est vrai. Et moi aussi, des fois, j'étais victime de tordus. D'accord. Mais pourquoi je l'ai fait? Est-ce que je l'ai fait pour Dieu ou pas? La Bible dit que tu serviras les seigneurs ton Dieu en premier. Dès le début de ce livre, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, mais il me semble que vous êtes là ce matin parce que vous aimez la Bible et parce que vous considérez que c'est la parole de Dieu. Au début de ce livre, il me parle d'un certain Abel. Vous étiez là quand votre maîtresse à l'école du dimanche vous l'a dit, d'accord? Abel. Moi, on m'a dit que c'était une histoire de sacrifice. J'ai jamais compris pourquoi Abel il était plus accepté que Caïn. Sauf que quand tu relis le texte, tu vas voir qu'il est écrit. Abel a donné les premiers de ses agneaux. Il a servi Dieu en premier. Je vais un petit peu plus loin parce que ça peut être un hasard. Quand je vois Abraham avec Melchisédek et qui vient de faire tout ce butin énorme, avant de se servir, Abraham dit « Tu te sers en premier, Melchisédek. Tu te sers en premier. Tu prends les 10% d'abord pour toi et Dieu en premier et moi je vivrai avec le reste. » Je vais un petit peu plus loin. Lorsque Dieu parle au peuple d'Israël et qu'il a dit « Vous referez des récoltes formidables dans le pays. » Mais quand vous aurez eu votre récolte, en premier, vous apporterez à la maison de l'Éternel. En premier, dans vos troupeaux, quand vous aurez une naissance, etc. Ah mais pasteur, c'est l'Ancien Testament. Je ne suis pas d'accord. Vous le continuez comme ça jusqu'au bout. Vous voyez cette veuve-là qui a donné son nécessaire dans la Bible avec Jésus. Et Jésus lui a dit, elle s'est fait arnaquer? Non. Jésus a dit, c'est un modèle hallucinant. Et c'est beaucoup plus facile à vous, les pharisiens riches, de le faire qu'à cette pauvre veuve. Et à un moment où c'est l'apôtre Paul qui va un peu plus loin et qui dit « Le premier jour de la semaine, vous mettrez à part ce que vous aurez résolu pour l'amener dans ma maison. Le premier jour, vous donnerez. » Parce que, honnêtement, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu est servi en dernier, eh bien, il y a plusieurs mois où Dieu, on le fait sauter. Hein. Parce que c'est une question de cercle, vous voyez. C'est comme un cercle vicieux qui se met en place. J'ai pas, je donne pas, je donne pas, j'ai pas, je donne pas, je donne pas, j'ai pas, j'ai moins, j'ai pas, j'ai pas, j'ai moins, j'ai moins, j'ai moins, je donne pas. Cette veuve, elle se dit, de toute façon, de qui je dépends? Et là, elle a un moment où elle dit, je crois la parole de Dieu. Si tu crois pas la parole de Dieu, ce que je te dis là, c'est pas acceptable. Mais si tu crois que Dieu est Dieu, et qu'il pourvoira à tout, alors tu peux le faire confiance dans tout. Et cette femme va faire confiance à Dieu. Moi, j'ai cette anecdote qui m'a marqué, c'est le pasteur Robert Morris, c'est lui-même qui l'écrit aux États-Unis. Il est allé un jour dans une réunion, il a prêché. Il n'avait que 4 églises qu'il avait reçues ce mois-ci. Or, c'était un petit peu comme Élie. Aux États-Unis, vous savez, il n'y a pas de sécurité sociale comme en France. Et pour les pasteurs, ils ont ce qu'ils ont dans le tronc, dans la corbeille à la fin. D'accord ? Alors, il y a des églises super et puis il y a des églises moins généreuses. Bon. Et ce pasteur est arrivé et il n'avait quasiment rien eu des 3 réunions précédentes dans le mois. Il n'avait pas eu d'invitation, il n'avait rien et il voyait qu'il avait très très peu pour vivre. Alors, si je ne me trompe pas, c'est qu'il lui manquait 1 000 $. Et il est arrivé, au moment de l'offrande, il a prêché, c'est lui qui a fait la prédication. Mais au moment où il prêchait aux États-Unis, ça se fait souvent, il y a un petit invité, un pasteur ou quelqu'un, un missionnaire qui vient et qui fait de la pub. Vous savez, on leur donne, on appelle ça des windows aux États-Unis, on leur a 5 minutes, c'est un petit peu comme les annonces, ce que fait Jessica, mais c'est pour un pasteur qui fait un petit peu sa tournée promotionnelle. Et il y avait un missionnaire après lui qui faisait une tournée promotionnelle et qui dit « Voilà, j'ai besoin de recevoir quelque chose ». L'offrande a été pour le pasteur qui avait prêché, donc Maurice, et il a reçu 1 000 $. Juste de quoi il avait besoin. Quand il a reçu ça, il a dit, j'ai dit merci au Seigneur. Mais par prévenance, par gentillesse, il est allé voir son collègue qui était missionnaire dans un autre pays et qui avait fait les 5 minutes après lui, et lui a dit, qu'est-ce que tu as reçu ? Et le missionnaire lui a dit, j'ai rien reçu. Il n'y avait rien. Il est parti, ils sont quittés, bah, écoute, que Dieu te bénisse. Écoute, je vais prier pour toi, amen, alléluia, qu'il te multiplie. Lui, il avait ses 1 000 $. Alors qu'il allait partir de l'église, Dieu l'arrête. Vous pouvez le lire, hein, c'est pas moi qui invente, vous pouvez le lire cette histoire, c'est lui-même qui l'écrit dans le livre The Blessed Life. Et il lui tape sur l'épaule, et il lui dit, et, enfin Dieu lui tape sur l'épaule, non, enfin Dieu lui parle, et lui dit, donne tout. Donne cette offrande que tu as reçue au missionnaire. Et il dit lui-même, mais c'est exactement ce dont j'avais besoin. C'était juste ma fin du mois, exactement ce que j'avais besoin. Je n'avais rien eu avant, j'avais besoin de ça. Il est arrivé, il a dit, ça m'a arraché. Je lui ai donné l'offrande. Je dis que Dieu te bénisse. Et c'était lui qui n'était pas béni. Il a été invité à la pizzeria après avec les gens de l'église. Il ne pouvait même pas payer la pizzeria. Il était avec les... Et là, on lui donne à... Il a sa part, etc. Et il y a quelqu'un, mais très impoli. Très, très impoli. Qui vient lui demander qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent. Et il ne voulait pas, alors il ne voulait pas répondre, etc. Parce qu'il était gêné. Même si c'était des États-Unis, il parle beaucoup d'argent, là, quand même, c'était un peu abusif. Donc il a dit, non, il est là, j'ai gardé, il est dans la voiture, etc. Et le chrétien... un très impoli, insiste. Il dit, combien tu as reçu ? Non, mais j'ai reçu une certaine somme, et puis ça ne te regarde pas. Et puis, il dit, mais combien, tu sais même pas ? Si, je sais, c'est dans la voiture là-bas. Et il commence à mentir, le pasteur, alors qu'il avait tout donné. C'était mentir pour une bonne cause, mais c'était quand même mentir. Alors après, on peut filouter, mais Dieu sait. Et le gars lui dit, va le chercher. Et il lui dit, je ne peux pas. Et le chrétien poli, vous savez ce qu'il lui dit ? Il dit, je sais que tu ne peux pas. Parce que Dieu m'a dit que tu l'avais donné. Et tiens, il lui a mis une enveloppe. Et dans l'enveloppe, il y avait 10 000 $. Dieu dit, je sais combien Dieu t'a donné. Je sais que tu as donné ta dîme au Seigneur. Et Dieu t'a donné 10 fois plus. Que ça change ta vie. Et il est parti. Véridique. Il y a un moment où Dieu te met au carré, tu l'es ou tu l'es pas. Moi, pendant des années, vous savez ce que j'ai fait ? Je dois confesser, j'étais pasteur stagiaire. Il y a des versets, ils sont sympas dans la Bible. Parce que ça paraît spirituel et puis ça nous permet d'un peu truander le Seigneur. Il y a un verset qui dit que ta main droite ne sache pas ce que met ta main gauche. Alors c'est très pratique au moment de l'offrande. Je ne sais pas combien je donne. Et moi, pendant des années, vous voyez, je donnais. Je comptais pas. Je dis, Seigneur, je donne ma dîme. Je n'étais pas du tout repris quand le pasteur prêchait sur la dîme. Hein, pas du tout. Je donne. Si, si. Et sincèrement, je pensais. Jusqu'au jour où l'informatique fait que, vous savez, il y a quand les églises font bien les choses, il y a quand vous donnez en chèque, etc., que c'est identifiable, à la fin de l'année, vous avez votre bilan. Mais moi, j'étais prof aussi, donc l'éducation nationale, ils me font un bilan au moment des impôts. Et c'est bizarre, je suis tombé sur les deux feuilles côte à côte. Les revenus déclarés par l'éducation nationale. Et mes dons faits à ma petite église. Je suis prof d'économie. Je sais faire des statistiques. Et je sais compter 10%. Et je regarde, j'ai donné 7%, c'est quoi cette arnaque? J'étais persuadé chaque mois d'avoir été en règle. Mais vous voyez, à force de ne pas compter trop, trop bien. L'éducation nationale, elle compte très bien, elle. Et c'est pas normal que les inconvertis comptent mieux que nous. Et moi, j'ai reçu ça dans mon cœur. Yvan, tu vas être pasteur. Tu veux enseigner les autres et tu crois que Dieu bénit celui qui bénit. Tu vas prêcher aux autres et toi-même, tu grattes. J'ai demandé pardon au Seigneur et j'ai changé ma façon de faire. Et j'ai dit, Seigneur, je te donnerai en premier parce que sinon, je prétexterai la fin du mois pour faire des arrangements et que le mois prochain, en fait, je ne serai pas toujours non plus dans le vert, donc je ne pourrai pas non plus. Je vais faire en premier et je vais faire réglo. Je vous assure, pas, il s'est passé un truc. J'ai jamais été aussi béni de ma vie. C'est incroyable ce que cette veuve a vécu. J'étais pas riche à l'époque. Hein. C'était au début, j'avais un appartement qui était très cher, j'étais pas marié. J'avais tous les charges qui tombaient et ça m'a coûté beaucoup plus à l'époque. Mais Dieu honore celui qui l'honore. Et il y a un test de Dieu, il y a un test pour cette femme. Certains vont dire, oui, mais comment toi tu aurais réagi? Tu aurais dit, je suis choqué, c'est pas normal, c'est un pasteur abusif, le voleur, Élie, il vient me prendre le peu que j'ai. Donner à Dieu, c'est enrichir. Je sais que c'est bizarre. Garder, refuser, il y a un moment où on se justifie, on a 1000 bonnes raisons et notre cœur devient avare. Alors c'est ma conclusion. J'ai demandé à l'équipe de revenir sur le devant, mais qu'est-ce que vous préférez, la foi ou la farine? Parce que cette femme, elle a une possibilité. Soit elle choisit la farine, soit elle choisit la foi. Pasteur, il me reste 150 grammes de farine. Élie, il me reste 150 grammes de farine. La farine ou la foi? Maintenant, je ne te demande pas... Attention. Dieu t'a donné un cerveau. Donne là où tu sais que ça vient de Dieu. Fais pas n'importe quoi, tu es responsable de ton argent. Des fois, tu peux dire non, mais c'est juste, il faut que tu saches ce à quoi Dieu te le demande. Alors, cette femme-là, elle a le test. Est-ce que je reste avec mes 150 grammes de farine ou bien est-ce que je fais confiance au Seigneur? C'est le stress de la foi. Elle l'a fait, elle a eu à manger tous les jours, tous les jours, tous les jours et tous les jours encore. Parce qu'elle mettait un peu de farine, elle dit « Ah, c'est le pain d'aujourd'hui. Ah, ben il y a autant de farine, dis donc, c'est cool pour demain. » Puis elle revoyait l'huile et l'huile remontait. Ça baissait, ça remontait. Ça baissait, ça remontait. Vous savez, c'est Dieu qui fait les ajustements, mes amis. Mon Dieu est juste et il sait faire les ajustements. On va prier, on ferme les yeux ensemble. Il y a des sacrifices, Seigneur, que tu nous demandes lorsqu'il faut nous mettre en second et toi en premier. Seigneur, je te prie pour que cette matinée, tu puisses faire déverser la bénédiction de Dieu sur quelqu'un. Tu dis que cette femme est partie et fils qu'Élie avait demandé pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle, sa famille ainsi qu'Élie. Tu dis que le pot de farine ne se vida pas, que la jarre d'huile non plus, conformément à la parole de l'Éternel. Seigneur, je voudrais que tu honores ta parole dans la vie des gens ce matin. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, mais qu'ils puissent se lever en disant, Seigneur Jésus, j'ai très peu de choses, Seigneur, mais je veux te servir en premier. Seigneur, je te demande d'honorer ta parole dans la vie de ces personnes. Seigneur, tu dis dans le livre de Malachie que toi, l'Éternel, tu n'as pas changé. Tu dis que il est possible de te voler et de te demander en quoi t'avons-nous volé lorsque nous retenons nos offrandes et nos dîmes. Seigneur, tu dis aussi apportez donc vos dîmes dans leur totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et vous verrez bien si, de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Pour vous, je détruirai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes. Ne manqueront plus de leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Seigneur, je crois que cette parole est vraie et que tu veux ouvrir les écluses des cieux. Sur un papa ce matin qui prend une décision, sur une femme qui prend une décision ce matin. Seigneur, je te demande, c'est que tu nous conduises dans notre générosité. Qu'il n'y ait pas de hasard, mais qu'il y ait vraiment du sérieux. À qui donner? Comment donner? Seigneur, reprends-moi si j'ai des choses à changer également. Je te donne mon cœur, Seigneur. Pas que mes aspects financiers, mais je te donne aussi mes sentiments, je te donne mes projets. Je veux que tu sois en premier dans tout, Seigneur.
Tout. Mon fois.